nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce samedi 30 septembre 2023 sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité. Dans quelques instants, je vais vous présenter le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Aux États-Unis, la grève des ouvriers de l'automobile s'étend. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le président iranien a condamné le double attentat terroriste survenu au Pakistan, qui a fait 52 morts et 80 blessés. Des unités de l'armée syrienne ont abattu 3 drones appartenant au réseau terroriste dans les banlieues de Latakia et d'Alep. Et au Burkina Faso, il n'y aura pas d'élection tant que le pays ne sera pas suffisamment sûr pour que tout le monde puisse voter, a fait savoir le chef de la junte, Ibrahim Traoré. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a condamné les attentats terroristes contre 2 mosquées au Pakistan, affirmant que Téhéran était fermement prêt à lutter contre l'extrémisme sous toutes ses formes. Au moins 57 personnes ont été tuées, plus de 60 blessées, vendredi 29 septembre, dans la province du Baloutchistan, au sud-ouest du Pakistan. Les attentats à la bombe ont eu lieu près d'une mosquée de la ville de Mastung, alors que des personnes se rassemblaient pour célébrer l'anniversaire de la bienheureuse naissance du prophète Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de ces explosions. Quelques heures seulement après l'explosion sanglante au Baloutchistan pakistanais, 2 autres attentats suicides ont fait au moins 3 morts dans le nord-ouest de ce pays. Selon l'IRNA citant les médias pakistanais, un commissariat et une mosquée de la ville de Angu, située dans la province de Khyber Pashtunkhwa, au nord-ouest du Pakistan, ont été visés par des terroristes. Dans ces 2 actes de terrorisme survenus lors de la prière du vendredi dans une mosquée proche d'un commissariat de police pakistanais, 3 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres civils ont été blessés. Dans un message adressé vendredi au président pakistanais Arif Alvi, M. Raisi a déclaré que cette action aveugle montrait une fois de plus que les terroristes, qui n'ont aucune compréhension des enseignements miséricordieux de l'islam, n'ont d'autre but que de semer la discorde entre les musulmans. Toutefois, ils ne parviendront jamais à atteindre leurs objectifs illégitimes et inhumains. Le président iranien a condamné cette initiative terroriste anti-religieuse et inhumaine et a exprimé sa sympathie et ses condoléances à son homologue pakistanais et à la nation pakistanaise. La République islamique d'Iran est résolument prête à coopérer avec le Pakistan dans la lutte contre toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme, a déclaré M. Raisi. Il a exhorté la communauté internationale, en particulier les pays musulmans, à réagir sérieusement à cet acte criminel et à empêcher la répétition d'événements aussi amers. Le président iranien a exprimé l'espoir que les auteurs de cet acte soient identifiés et punis dès que possible. Le ministère syrien de la Défense a annoncé vendredi avoir abattu 3 drones des terroristes dans les campagnes d'Alep et de Latakia. Des unités de l'armée syrienne ont abattu 3 drones appartenant au réseau terroriste dans les banlieues de Latakia et Alep. Elles ont également visé leur QG à l'artillerie, tuant plusieurs de leurs éléments et détruisant un véhicule tout-terrain avec les terroristes à bord. Le ministère de la Défense a déclaré sur sa page Facebook « Les réseaux terroristes armés continuent de viser les civils et les positions de l'armée dans les banlieues d'Alep, de Latakia et d'Idlib. Le dernier incident était une attaque avec plusieurs drones que nos forces ont réussi à abattre. 2 dans la banlieue nord de Latakia et 1 dans la banlieue ouest d'Alep. » En riposte à ces attaques, des unités de nos forces armées ont effectué des tirs précis avec de l'artillerie sur les quartiers généraux de ces réseaux dans les zones mentionnées, tuant et blessant plusieurs terroristes, dont Abu Marwan Azou. De plus, nos forces ont réussi à détruire un véhicule tout-terrain avec les terroristes à bord dans les environs de la banlieue ouest d'Alep. Encore précisé le ministère syrien de la Défense. Les forces du régime sioniste ont tué un membre du mouvement de résistance palestinien Hamas lors d'une embuscade au centre de la Cisjordanie occupée. L'incident a eu lieu vendredi 29 septembre, près de la colonie illégale de Psagot, située à l'est de la ville d'Arbira. Le ministère palestinien de la Santé, basé en Cisjordanie, a identifié la victime comme étant Mohammad Jibril Roumana, affirmant qu'il avait succombé à de graves blessures à l'abdomen. Le Hamas, dont le siège est dans le territoire palestinien voisin de la bande de Gaza, a publié un communiqué décrivant Roumana comme un martyr héroïque, mort alors qu'il défendait la liberté de son peuple. Un autre Palestinien a été également blessé lors de l'incident, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. La violence menée par les forces du régime sioniste et ses colons illégaux a coûté la vie à au moins 242 Palestiniens depuis le début de 2023. Vendredi également, des dizaines de Palestiniens ont été blessés lorsque les forces israéliennes ont utilisé des gaz lacrymogènes et tiré des coups de feu pour disperser les participants au rassemblement hebdomadaire anti-implantation dans le nord de la Cisjordanie. Selon les médias palestiniens, les rassemblements ont eu lieu dans le village de Beit Dajan et dans la ville de Kafr Adum, située près de la ville de Naplous. Ahmad Jibril, chef du département d'urgence et d'ambulance du Croissant Rouge palestinien à Naplous, a déclaré que les troupes israéliennes avaient attaqué les manifestants à Beit Dajan avec des balles d'acier recouvertes d'une pellicule de caoutchouc, des bombes lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Le gouvernement arménien a annoncé ce samedi 30 septembre qu'ils sont déjà plus de 100 000 à avoir quitté le Haut-Karabakh. Alors que certaines dépêches font état du déploiement des forces militaires de la République d'Azerbaïdjan au centre du Haut-Karabakh, le nombre de réfugiés dans cette région ne cesse d'augmenter. L'Azerbaïdjan a fait part ce vendredi de son intention d'autoriser un groupe d'experts des Nations Unies à visiter la région du Haut-Karabakh dans quelques jours. Cela intervient alors que le nombre d'Arméniens de souche ayant quitté la région a atteint plus de 97 000 personnes. Dans le même temps, l'Azerbaïdjan s'apprête à renvoyer 5 500 résidents déplacés au Karabakh cette année. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré qu'il existait une sorte de liste d'attente pour ceux qui envisagent de retourner dans leur pays. Le nombre de résidents azerbaïdjanais retournant chez eux au Karabakh atteindra 5 500 d'ici la fin 2023, a déclaré Aliyev. À ce jour, 2 300 personnes qui ont dû déménager sont déjà rentrées et d'ici la fin de cette année, elles seront 5 500. A-t-il affirmé lors d'un forum d'urbanisme organisé dans la ville de Zangilan. Selon les données officielles, environ 1 million d'Azerbaïdjanais ont dû déménager à cause du conflit du Karabakh. La France est confrontée à une crise des punaises de lit qui a déclenché une querelle politique. Le fléau des insectes continue de se propager dans la capitale Paris, un an avant les Jeux Olympiques. Une vague de panique et de dégoût a déferlé à travers le pays alors que les utilisateurs des réseaux sociaux ont publié des images d'insectes rampant dans les trains à grande vitesse et le métro parisien. Parallèlement, une série d'articles en ligne sur les punaises de lit dans les cinémas et même à l'aéroport Charles de Gaulle ont été publiés par les voyageurs. Le ministre français des Transports, Clément Beaune, a déclaré qu'il convoquerait les opérateurs de transport public la semaine prochaine pour les informer des contre-mesures et de la manière de faire davantage pour la protection des voyageurs. Des représentants de la mairie de Paris ont écrit au Premier ministre Elisabeth Borne pour réclamer la création d'un groupe de travail national dédié à la lutte contre ce qu'ils appellent un fléau des insectes. L'adjoint au maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a déclaré à la télévision française. Personne n'est à l'abri. Il y a des facteurs de risque, mais vous pouvez attraper des punaises de lit n'importe où et les ramener chez vous. Il a déclaré que les autorités parisiennes avaient reçu une augmentation des appels à l'aide et que les entreprises privées avaient reçu un niveau inhabituellement élevé de demandes de fumigation ces dernières semaines. Le gouvernement doit coordonner l'action à tous les niveaux de l'État, aussi rapidement et efficacement que possible. Mathilde Panot, présidente du parti de gauche La France Insoumise, au Parlement, a déclaré que les punaises de lit ont causé l'enfer à des millions de familles dans ce pays et que le gouvernement doit agir. Les punaises de lit, qui avaient largement disparu de la vie quotidienne dans les années 1950, ont réapparu ces dernières décennies et sont devenues de plus en plus résistantes aux traitements chimiques. Le chef de la junte burkinabé, Ibrahim Traoré, a déclaré vendredi qu'il n'y aura pas d'élection tant que le pays ne sera pas suffisamment sûr pour que tout le monde puisse voter. Le gouvernement militaire qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État l'année dernière s'est engagé à organiser un vote pour restaurer le régime civil en 2024. Les élections au Burkina Faso ne sont pas une priorité, contrairement à la sécurité dans ce pays miné par les violences terroristes, a affirmé le capitaine Ibrahim Traoré à la télévision nationale. Le capitaine a également annoncé une modification partielle de la Constitution, un texte qui reflète, selon lui, l'avis d'une poignée de personnes éclairées, au détriment d'une masse populaire. Les élections, ce n'est pas une priorité. Ça, je vous le dis clairement, c'est la sécurité qui est la priorité dans ce pays miné par les violences terroristes, a répondu Ibrahim Traoré au journaliste qui l'a interviewé vendredi soir 29 septembre à la radio-télévision burkinabé RTB. Les médias évoquaient des élections théoriquement prévues en juillet 2024. Si les élections ne constituent pas une priorité, Ibrahim Traoré a néanmoins ajouté que notre pari tient toujours pour organiser un scrutin, sans préciser de date. À la tête du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022, il a rappelé avoir déclaré le premier jour de sa prise de pouvoir vouloir faire le minimum de temps possible dans cette lutte. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Aux États-Unis, la grève des ouvriers de l'automobile s'étend. Le syndicat UAW a appelé vendredi 7 000 de ses membres à cesser le travail, portant à 25 000 environ le nombre de salariés à l'arrêt chez les trois grands constructeurs automobiles américains, alors que le mouvement dure maintenant depuis deux semaines. Les dernières grèves ont rassemblé au total quelque 25 000 travailleurs dans 21 États, soit environ 17 % des membres du syndicat américain UAW. L'extension de la grève a pris effet à 16 heures GMT et porte sur deux sites, l'un appartenant à Ford à Chicago et l'autre propriété de GM à Lansing, Michigan, a indiqué le président de l'UAW, Sean Fain. Il s'agit de la toute première grève conjointe des principaux constructeurs automobiles Ford, GM et le producteur de Chrysler, Stellantis, dans le but d'obtenir des salaires plus élevés et d'autres améliorations. Il a mentionné un mécanisme d'ajustement des salaires au coût de la vie ainsi que le droit de faire grève en cas d'annonce de fermeture de site et de délocalisation par le constructeur. Sean Fain a maintenu sa demande d'augmentation de 40 % des salaires sur une période de 4 ans, une position soutenue cette semaine par le président Joe Biden. Les entreprises ont proposé des augmentations de salaires de l'ordre de 20 %. Fain a également négocié pour représenter les travailleurs des usines de batteries prévues par Ford, auxquelles le géant de l'automobile a jusqu'à présent résisté. L'UAW a utilisé la grève ciblée qu'a débutée le 15 septembre comme monnaie d'échange, augmentant la pression sur les trois constructeurs automobiles dans le but de parvenir à un accord. Le président de Ford, Jim Farley, qui est resté relativement silencieux jusqu'à présent, s'est prononcé vendredi contre les tactiques de négociation de Fain. Ford a récemment suspendu la construction de l'une de ses usines et a averti qu'il pourrait devoir revoir à la baisse ses ambitions pour le projet. Stellantis a déclaré dans un communiqué qu'elle travaillait intensément avec l'UAW pour trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent le plus nos employés tout en garantissant que l'entreprise puisse rester compétitive. La grève a accru l'importance du statut d'État Sewing du Michigan lors de l'élection présidentielle de 2024. Plus tôt cette semaine, Joe Biden est devenu le premier président américain en exercice à se tenir sur une ligne de piquetage, rejoignant les membres de l'UAW dans le Michigan dans un discours audacieux en faveur du vote des cols bleus contre son probable rival électoral Donald Trump. Le parti républicain de Trump est généralement hostile aux syndicats, mais parvient souvent à recueillir un homme important de voix de la classe ouvrière. Trump s'est exprimé dans une usine automobile non syndiquée de la banlieue de Detroit, affirmant qu'il souhaitait un avenir qui protège la main-d'œuvre américaine, pas la main-d'œuvre étrangère.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans les places, sur les plateaux de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour de notre débat concerne le Niger, ainsi que le pacte de sécurité existant concernant les pays du Sahel. Alors tout de suite, je vous propose donc un reportage qui nous résumera un peu la situation de ces dernières semaines concernant le Niger, pour par la suite faire venir donc nos deux invités, comme le veut le format débat. Je vous propose donc notre reportage.
Il a confirmé mercredi 27 septembre que son ambassadeur au Niger a enfin quitté Niamey pour Paris plusieurs semaines après la demande formelle des dirigeants militaires du pays. L'ambassadeur de France au Niger est rentré à Paris après avoir quitté Niamey par avion mercredi 27 septembre au matin. Le conseil militaire du Niger avait auparavant retiré l'immunité et le visa diplomatique de Sylvain Ité, en donnant à la police l'ordre de procéder à l'expulsion de l'ambassadeur de France en réponse à ce qu'elle qualifiait d'action de Paris contraire aux intérêts de Niger. L'ordre a été donné après la fin d'un délai de 48 heures commençant le 25 août, accordé à l'ambassadeur de France de quitter le territoire nigérien. La junte militaire a accueilli favorablement la décision de Paris de mettre fin à son bras de fer avec le Niger et a annoncé que ce serait un nouveau pas franchi vers la consolidation de l'État. Dans un message télévisé, le porte-parole du Conseil militaire du Niger a qualifié le départ de l'ambassadeur de France et du retrait des troupes françaises d'événements historiques. Avant le coup d'État du 26 juillet, le Niger comptait l'un des derniers alliés de Paris dans le Sahel. Les troupes françaises ont dû déjà se retirer du Mali et du Burkina Faso sous la pression des gouvernements militaires qui ont pris le pouvoir dans ces deux pays.
Alors, nous revoilà sur le plateau. Tout de suite, donc, nous allons introduire nos deux invités. Tout d'abord, Monsieur Arnaud Develet. Bonjour, Monsieur Develet. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Merci. Deuxième invité étant Monsieur Luc Michel, analyste politique, notamment connu pour ses positions panafricaines. Bonjour Monsieur Luc Michel, ravi également de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à Maître Develet et à vos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de retrouver votre équipe.
Merci à vous, Monsieur Luc Michel. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Depuis le Mali, le Sahel a bien évolué et ce dernier chapitre concernant le Niger le prouve. Après un bras de fer de plusieurs semaines, où on a entendu des mouvements de troupes concernant la France autour du Sahel, on a finalement eu un retrait de l'ambassade, de l'ambassadeur, donc Sylvain Ité. Il est reparti en France. Les troupes, elles, sont encore restées, mais sont sur le départ. C'est ce qu'a annoncé officiellement donc le président Macron. Monsieur Luc Michel, en quoi ce mouvement est important pour le Niger et pour au-delà, donc le Sahel, avec notamment le pacte de sécurité qui les lie?
On est dans la chronique d'une défaite annoncée dès 2018. Le livre de Marc-Antoine de Perros de Macron, un expert français, s'intitulait une guerre perdue, le Sahel. Il avait été suivi par un débat de l'hebdomadaire Marianne et il quotidien Le Figaro. Tous posaient la question, ceux qui disaient que c'était pas de savoir si la France allait quitter le Sahel. Mais quand elle allait le faire et comment, aujourd'hui, c'est une défaite sans honneur.
Merci, Monsieur Luc Michel. Alors, Maître Develet, alors on a eu plusieurs chapitres hein, concernant ce retrait et ce retour de l'ambassadeur français. Ce retrait, notamment, s'est fait d'abord sous coup de pression militaire, à tel point que les Sahéliens, donc le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ont finalement signé un pacte de sécurité. Est-ce que ça aurait pu être évité, je dirais, est-ce que la France, en faisant ce mouvement de l'armée, a finalement empiré la situation et permis finalement à ce que le Sahel se lie plus?
Écoutez, tout d'abord, je souhaiterais attirer l'attention aux déclarations d'Emmanuel Macron récemment sur une chaîne de grande audience en France. Dans laquelle il est revenu sur les circonstances qui ont poussé donc la France à annoncer son départ du Niger. De toute évidence, il a une perspective différente des événements et de la situation, dans la mesure où il prétendait imposer le narratif selon lequel la France avait décidé unilatéralement de quitter le pays pour ne pas être, je cite, assujetti au chantage de la junte au pouvoir au Niger. De toute évidence, ce n'est pas du tout la façon dont les choses se sont déroulées, puisque pendant, vous l'avez souligné dans votre reportage en introduction, la France avait été promptée de quitter le pays dès la fin du mois de juillet. Elle s'accrochait en essayant d'imposer son ambassadeur sur place. Il y avait eu d'ailleurs des épisodes assez surréalistes où le consulat, enfin l'ambassade essayait d'amener des vivres. Et dans l'état actuel des choses, non, c'est plutôt une situation où le Niger a mis la France à la porte, effectivement. Et en cela, je rejoins l'expression de Luc Michel, c'est une défaite sans honneur et une défaite en tout cas claire et nette. La France s'est fait mettre à la porte.
Ça aurait pu être évité, je veux dire, si, parce que au même moment, en fait, s'il a été jugé, ce n'était pas l'ambassade lui-même, c'était l'action de l'ambassadeur français qui avait été jugé, mais la manière dont l'ambassade française a réagi au Niger et puis par la suite le gouvernement français et les ordres qu'ils ont donnés à cette ambassade n'ont pas-ils empiré les choses pour la situation française au Niger? Est-ce que ce résultat aurait pu être évité pour le côté français?
Pour cela, il aurait fallu que la France prenne conscience de l'évolution géostratégique de la région. Or, comme Luc Michel, encore une fois, l'a souligné, malgré des ouvrages qui ont été publiés il y a déjà plusieurs années par des gens dont on pourrait dire qu'ils savent de quoi ils parlent, le gouvernement français n'a pas vu venir la vague de changement majeur qui se déroule dans cette région. Et on a pu voir d'ailleurs que dans le contexte des événements récents au Burkina Faso, on s'accroche en fait aux vieilles techniques, aux vieilles ficelles qui consistent à coopter des éléments au sein des forces armées de certains pays dont ils décident que leurs dirigeants ne leur conviennent pas pour essayer de réinstaller les leurs. Donc c'est quelque chose qui démontre bien que la France n'a pas pris conscience de cette évolution en profondeur. Et en même temps, cela montre bien que les pays du Sahel font bien de créer ces pactes communs de sécurité, parce que on peut s'attendre à des tentatives de déstabilisation pour essayer de retourner la situation et de mettre un frein à cette, faut le dire, une débandade.
Ouais. D'ailleurs, il faut souligner que le Niger a refusé donc des camions d'ONG qui sont arrivés aux frontières. Ils les ont refusés à cause de ça. Alors, Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a indiqué Maître Develet? Est-ce que aussi, parce qu'il y a une notion qui est en fait très différente de là, quand on écoute le discours ou les propos tenus par Emmanuel Macron concernant donc le Sahel. La France a toujours, en tout cas les pays occidentaux ont toujours parlé de démocratie. On a vu au Burkina Faso, après des rumeurs de coup d'État, le peuple sortir dans la rue. Le Niger, ce fut pareil. Le peuple, le jour où il y a eu ce putsch, en tout cas ce coup d'État et cette volonté de changement et de ne pas reconnaître les élections, Ils ont montré que c'était bien le peuple qui souhaitait cette différence. Alors encore une fois, il y a matière à discuter sur la manière dont la France peut exprimer le mot démocratie. Monsieur Luc Michel.
Écoutez, la prétention et l'arrogance de Macron ont précipité les choses. Il y a quelques années, il était sorti un livre du journaliste Antoine Glaser. C'était prétentieux comme un Français en Afrique. On croirait qu'il a été écrit par Macron. Macron et le régime français fait une erreur d'appréciation. Il croit que le sentiment du français est dû à des manipulations médiatiques de la Russie ou à des gens comme moi-même. En fait, ils n'ont pas compris que c'est un tsunami soutenu par tous les Africains.
Merci, Monsieur Michel. Maître De Veller, encore une fois, je rappelle ma question. On a vu cette semaine, en plus de la situation au Niger, au Burkina Faso, donc des rumeurs de coup d'État. Très peu de preuves ont été démontrées, venant donc du magazine Jeune Afrique. Ce coup d'État ne s'est pas réalisé. Par contre, il y a eu des arrestations. Et on a vu le peuple burkinabé sortir dans la rue lorsque ces rumeurs se sont propagées dans la capitale. Le Niger, ce fut plus ou moins la même situation. Donc c'est le peuple, cette fois-ci, qui s'est exprimé. Ce n'était pas juste un putsch ou un changement d'État ou une non-reconnaissance des élections. Vous, selon vous, étant donné que vous êtes un juriste, qu'en pensez-vous? Est-ce que la France aurait dû, en voyant ce peuple s'exprimer, aurait dû s'effacer et accepter ce nouveau gouvernement?
Mais écoutez, la réponse est dans la question. Si on part du principe que nous sommes avant tout en présence d'un principe qui s'appelle l'autodétermination, le fait que les Burkinabés, les Maliens et les Nigérians et décidé. Alors après, on peut effectivement pinailler sur le fait que selon Paris, et vous avez mentionné Jeune Afrique. Alors Jeune Afrique, et je pense que Luc Michel sera d'accord avec moi, c'est la voie de Paris en Afrique. Donc forcément, Jeune Afrique ne va pas aller dans le sens du narratif selon lequel il n'y a pas eu de coup d'État. Mais oui, de toute évidence, on est en présence d'un processus d'autodétermination. Il y a des forces profondes qui travaillent cette région, que Paris a fait son lit depuis plusieurs années avec ses opérations un peu de pantomime en prétendant apporter une forme de sécurité, mais en fait, en faisant en sorte que, quelque part, le foyer terroriste soit toujours alimenté pour justifier leur présence sur place. C'est un mode opératoire que les Américains utilisent au Moyen-Orient, notamment en Syrie et en Irak, pour justifier une présence qui, légalement, n'a aucune justification, puisqu'ils ne sont pas invités par les gouvernements légitimes dans la région. Et là, c'est un peu la même chose, quelque part. Et dans ce contexte-là, effectivement, il est clair que Paris s'accroche à un paradigme qui est complètement dépassé, et qui laisse entendre que plus que jamais, ces nouveaux dirigeants vont devoir consolider leur position, leur pouvoir, et coordonner surtout leur renseignement, parce que de toute façon, ça va être avant tout une histoire de renseignement, une guerre de l'information, bien sûr, mais aussi une guerre du renseignement. Il est crucial d'empêcher toutes les ONG occidentales de venir dans le pays et de servir de chevaux de Troie pour des déstabilisations futures. Et en cela, il est indispensable d'évacuer, dans un premier temps en tout cas, quitte à revenir après à une relation, des relations bilatérales respectivement avec Paris qui soient plus équilibrées. Pour l'instant, en ce qui concerne l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de ces États, il est indispensable que toute présence française ou influence française ou perçue en tant que telle soit et conduite, si je puis dire.
Merci, monsieur Maître De Veller. Alors, la situation du Niger est quand même un peu différente du Mali ou du Burkina Faso. Déjà, le Mali avait apprécié l'aide donnée par l'Algérie, par exemple, ou encore la CEDEAO ne s'était pas directement dirigée ou restée en colère trop longtemps avec le Burkina Faso. Par contre, le Niger refuse l'aide algérienne. Le Niger, la CEDEAO était presque prêt à attaquer. Monsieur Luc Michel, si vous êtes d'accord, il y a quand même une différence par rapport à comment les choses sont perçues par le Niger et concernant le Niger, par les pays voisins, mais aussi par les différentes actions internationales qui peuvent se faire.
Ben écoutez, les trois régimes sont différents, évidemment, et la situation locale n'est pas la même. Le Niger, évidemment, entend développer une politique de souveraineté nationale, ce que le Burkina Faso, qui a des mois d'avance avec la révolution, n'apprécie pas.
Et concernant le Mali, je veux dire, le Mali a également eu des problèmes avec la CEDEAO, encore maintenant, ils sont encore sous sanctions, ils se sont montrés d'une manière extrêmement virulente contre la France, et pourtant, même si le Niger partage le même, plus ou moins le même discours, le Mali a vu de manière positive les actions diplomatiques de l'Algérie. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi le Niger refuse ces actions diplomatiques de la part de l'Algérie, qui pourtant prône l'indépendantisme, la souveraineté, la volonté de pouvoir décider par soi-même?
Mais pour une raison très simple, ce sont les sanctions économiques mettent ces pays à genoux, et donc ils essayent de garder des relations correctes, cordiales en tout cas, avec la CEDEAO. C'est à mon sens une erreur.
D'accord, merci Monsieur Luc Michel. Maître Develay, qu'est-ce que vous pensez donc du futur du Sahel? Parce que ce qui est vraiment dans l'engagement du Sahel, ça a été la sécurité. On rappelle qu'il y a des actes terroristes. On rappelle que depuis le début de ce qui se passe au Sahel, on parle de milliers de morts, on parle de beaucoup de déplacés, on parle de tout simplement du mot terrorisme sur tout le Sahel, alors qui englobe le Niger, le Burkina Faso, le Mali, mais également c'est leurs voisins. Alors, est-ce que ça va être leur premier, comme le Mali et comme le Burkina Faso, est-ce que ça va être la première démarche du Niger, selon vous, sécuriser les routes, sécuriser le pays?
Oui, effectivement, il faut sanctuariser le pays, parce qu'encore une fois, je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le Sahel sans comprendre qu'il y a un réalignement, une redistribution des cartes à l'échelle géopolitique globale. Et que l'Afrique est un grenier pour les Européens et les Occidentaux de manière générale, qui leur permet déjà de se projeter, bien sûr, pour pouvoir, selon eux, empêcher l'infiltration du continent par la Russie et la Chine, mais aussi, si on prend en compte la situation en Ukraine et le conflit qui s'y déroule, c'est pour quelque part couper l'herbe sous les pieds de Paris, si on ne parle que de Paris, qu'il est indispensable que les mouvements indépendantistes soient soutenus de façon à créer des problèmes d'approvisionnement pour Paris, en ce qui concerne en tout cas sa capacité à être une nuisance en Ukraine. Et donc tout est lié, bien sûr. Pour moi, il n'y a aucun doute. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, le prochain grand... ça a été dit par plusieurs experts, mais on peut s'attendre dans les prochaines années à ce que l'Afrique, malheureusement, soit le champ de bataille, si je puis dire, le théâtre de lutte d'influence dans un contexte où effectivement la multipolarité est en train de, si je puis dire, s'imposer face à l'unipolarité qu'on a pu connaître jusqu'alors.
Merci, Maître Develay. Monsieur Luc Michel, alors comme l'a dit Maître Develay, donc il y a en jeu, donc la situation du Sahel est un véritable enjeu pour les autres pays africains, si on suit cette logique, parce que leur défaite pourrait remettre en arrière plusieurs décisions africaines dans le temps, et leur réussite pourrait pousser d'autres pays africains à aller de l'avant. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, ce que les Français ont compris, c'est la réalité de la percée de la Russie en Afrique. La Russie a un grand objectif de politique internationale, c'est la constitution d'un bloc d'État anti-impérialiste au Sahel. C'est ce que est en cours et que nous assistons aujourd'hui.
Merci, Monsieur Luc Michel. Maître Develay, vous êtes d'accord? Est-ce que cet enjeu du Sahel est également un enjeu pour tout le continent africain?
Oui, absolument. Pour des raisons stratégiques, des raisons énergétiques et des raisons symboliques aussi, je dirais. Parce que ce qui se joue là, si ça fait jurisprudence, ça peut avoir vocation à entraîner ce qu'on appelle l'effet domino. Et effectivement, donc, tout se joue là. C'est le nœud en ce moment. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut prendre en compte et comprendre la perspective de ces nouveaux États embryonnaires qui essayent d'asseoir le PNP et leur indépendance de Paris, quant au fait que, plutôt que de chacun suivre des voies séparées, ils ont opté pour une concentration et une mutualisation du renseignement, ce qu'on a pu voir d'ailleurs au Moyen-Orient avec cette organisation quadripartite qui voyait l'Iran, la Russie, la Syrie et je crois même la Turquie partager leurs renseignements pour essayer de garder un pion d'avance, une étape d'avance sur toute tentative de déstabilisation. Et bien sûr l'Irak, hein. D'ailleurs le centre en question est basé en Irak.
Merci, Maître. Alors, une question sur ce que vous venez de dire, Maître Develay. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le Mali a réussi à stabiliser? Je pense que la meilleure preuve a été l'amélioration de ses relations avec la Côte d'Ivoire, le fait que les soldats sont retournés en Côte d'Ivoire, ont montré une forme de une page qui se tourne. Le Burkina Faso, cette semaine, on a pu voir que le peuple continuait à soutenir le nouveau gouvernement. Donc le Niger est finalement le pays le plus fragilisé, le plus fragile à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut s'attendre à des actes de sabotage?
Ah bah absolument. Je pense que dans le contexte de ce que je venais d'évoquer, tout sera fait pour éliminer ces mouvements panafricains dans l'œuf. Hein. C'est plus on leur permet de s'affirmer, de peaufiner leur position, de réintégrer, restituer, si je puis dire, l'État régalien qui normalement devrait prévaloir, plus ce sera compliqué ensuite pour les impérialistes de poursuivre leur plan de déstabilisation. Donc, on peut s'attendre à des coups tordus, ça c'est certain, et ce sera certainement quelque chose qui, une situation qui devra être observée pour les 6 mois, à mon avis, au moins 6 mois à venir. Oui.
Merci, Maître Luc Michel. Alors, Monsieur Luc, Maître Develay, je m'excuse. Donc, Monsieur Luc Michel, concernant donc, ce qu'avait dit Maître Develay, est-ce que vous êtes d'accord? Et un autre point, le Niger, alors que les deux autres pays ne l'ont pas fait, ont invité Kéï Séba au Niger. Alors, on connaît le discours, on connaît qu'il est beaucoup plus violent, il a toujours eu des propos beaucoup plus extrémistes concernant le panafricanisme. Est-ce que ça montre donc, cette différence exprimée entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger? Monsieur Luc Michel.
Et il y a quelques mois, c'est tenu en France, à un sommet France-Afrique à Soissons. Là a été lancé le panafricanisme 2.0, qui est un faux panafricanisme. Ce sont des gens qui sont chargés de fracturer le néo-panafricanisme dans toute l'Afrique. Donc les sabotages seront évidents.
Et pour ce qui est, par exemple, de cette invitation de Kéï Séba, qui est donc un mouvement panafricaniste important, mais beaucoup plus violent dans les propos quand on suit les différents tweets qu'il a pu publier ou ses pages Telegram, on voit bien que c'est pas le même travail que se fait au Burkina Faso ou encore au Mali. Est-ce qu'on peut s'attendre également à une différence de gestion de la question du Sahel de la part du Niger?
Écoutez, visiblement, le Niger cherche sa voie. Ça sera quelque chose entre le Mali et le Burkina Faso. Il est encore trop tôt pour se prononcer là-dessus.
Merci, Monsieur Luc Michel. Maître Develay, un mot de conclusion éventuellement pour notre débat concernant tout ce qui a pu être tenu et sur, puisqu'aujourd'hui la situation est surtout sur le Niger, sur le fait, par exemple, les enjeux les plus importants que le Niger et que les Nigériens devront faire attention dans le futur.
Eh bien, encore une fois, des tentatives de déstabilisation probablement des opérations de décapitation de ces mouvements, ce que j'appelle des mouvements révolutionnaires, embryonnaires, certes, à cette conjoncture, mais qui ont vocation à, parce qu'ils viennent de la base, si je puis dire, et participent d'un mouvement de fond, je pense qu'on peut s'attendre à des convulsions répétées, avec des tentatives de déstabilisation constantes et peut-être même des assassinats. Les Américains sont, c'est plutôt leur technique, effectivement, et surtout probablement des purges en interne incessantes parce que c'est un peu la culture des militaires. Beaucoup d'entre eux ont été formés aux États-Unis, par exemple, et ils considèrent qu'ils ont autant de vocation à présider aux destinées du pays, si je puis dire, pour peu que l'opportunité se présente. Donc, encore une fois, et je suis d'accord avec Michel, il est bien trop tôt pour se prononcer, mais c'est vraiment, à mon avis, au niveau de la redistribution des cartes au niveau international, le Sahel est une section absolument à suivre et à observer de très près.
Merci, Maître Develay. Merci à vous, Luc Michel. pour votre participation à ce débat que, je rappelle, concernait donc le Niger. Et nous avons également parlé de la situation sahélienne, donc la situation sécuritaire, notamment par le biais de ce pacte de sécurité qui a été signé par les trois pays sahéliens, c'est-à-dire le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et chers téléspectateurs, c'est ici que se finit notre débat. Je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous n'avez pas vu ou que vous voulez revoir ce programme, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat ici dans les studios de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Se retirer du marché russe devient de plus en plus coûteux pour les entreprises européennes. Le quotidien économique britannique Financial Times a publié une analyse révélant que les plus grandes entreprises européennes ont enregistré des pertes directes d'au moins 100 milliards d'euros sur leurs opérations depuis l'opération militaire russe en Ukraine en février 2022. À travers l'étude de rapports annuels et des états financiers pour l'année 2023 de 600 groupes européens, l'enquête montre que 176 entreprises ont connu des dépréciations d'actifs, des charges liées au change et d'autres dépenses ponctuelles à la suite de la vente, de la fermeture ou de la réduction d'activité russe. Le chiffre global n'inclut pas les impacts macroéconomiques indirects de la guerre qui, par la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières et l'accélération des ventes d'armement, ont permis aux entreprises de défense et aux groupes pétroliers et gaziers de connaître des bénéfices élevés. Selon une étude, plus de 50% des 1871 entités détenues par des Européens en Russie avant la guerre opèrent toujours dans le pays, comme l'Italien UniCredit, l'Autrichien Raiffeisen, le Suisse Nestlé ou encore le Britannique Unilever. D'autres études de recherche ont permis d'éclairer la situation pour les entreprises européennes encore bloquées en Russie, comme la liste des prises de position d'entreprises créée par Jeffrey Sonnenfeld, professeur à l'Université américaine de Yale, ou encore l'étude de l'IMD et de l'Université de Saint-Gall. La liste de Yale tient compte de l'ensemble des activités commerciales en Russie, tandis que la seconde étude ne porte que sur les prises de participation sous forme de filiales, souvent plus coûteuses, à abandonner. Les comptes sanctions de la Russie entravent le retrait des entreprises étrangères du marché russe. En réalité, quitter la Russie est une véritable épreuve pour les entreprises européennes. Si les sanctions des pays occidentaux n'ont pas vraiment surpris le Kremlin, puisqu'il s'agit d'une arme que l'Occident emploie fréquemment depuis la guerre russe-géorgienne de 2008, la décision des entreprises privées de se retirer du territoire russe, elle, a réellement bouleversé l'économie du géant eurasien. En effet, une part importante de l'économie russe dépend des actions d'acteurs extérieurs. Une analyse du média d'information Atlantico rappelle que les entreprises occidentales souhaitant se retirer du marché russe ont d'abord cherché des repreneurs pour les actifs. Toutefois, conclure un accord n'est pas une tâche facile dans la mesure où tout retrait de capitaux à l'étranger est entravé par le gouvernement russe. Pourtant, les grandes compagnies ont quitté le territoire malgré les coûts élevés et les pertes importantes. Dès lors, le Kremlin a pris des mesures pour rendre le retrait des entreprises étrangères de son territoire plus complexe. Dans un premier temps, les autorités ont interdit directement les retraites des investisseurs dans un certain nombre d'industries stratégiques, banques et finances, énergie et infrastructures, tout en rendant aussi difficile que possible le rapatriement des bénéfices. Ensuite, le gouvernement est allé plus loin en exigeant des entreprises étrangères qu'elles paient tout retrait d'actifs russes pour une contribution volontaire au budget russe de 10% de sa valeur de marché. Depuis peu, les entreprises occidentales ont l'obligation de vendre leur part à des actifs russes avec une décote de 5% et de payer une taxe de sortie volontaire à la Russie. Alexandra Prokopenko, chercheuse au centre de recherche Carnegie Russia Eurasia, affirme que trouver un acheteur est compliqué pour les entreprises occidentales. Aucun commerce ne peut avoir lieu avec les quelques 6 000 personnes et entreprises figurant sur les différentes listes de sanctions. L'État russe doit en outre donner son accord à la vente, et dans certains cas, Poutine lui-même, ce qui peut prendre du temps. Afin d'ajouter de l'huile sur le feu, la Russie a signé en avril dernier un décret conférant à l'État russe le droit de contrôler temporairement les actifs d'entreprises ou d'individus de pays hostiles, y compris les États-Unis et leurs alliés. Ce décret a immédiatement été utilisé par le Kremlin afin de prendre le contrôle des installations détenues par la société finlandaise Fortum et la société allemande Uniper. Le 18 juin 2023, le maître du Kremlin a signé un nouveau décret qui exige que les entreprises qui reprennent des actifs occidentaux en Russie soient entièrement détenues par des nationaux, menaçant les entreprises privées d'exportation. Il a ainsi permis à la Russie de contrôler les actifs locaux des entreprises Danone et Carlsberg AS dès le mois suivant. Dès lors, ces contre-sanctions durcissent les procédures de sortie du marché économique russe pour les acteurs occidentaux. L'analyse du Financial Times rapporte que plus de 2000 entreprises cherchent des moyens de quitter le marché russe, tandis que d'autres agissent comme si la guerre n'avait pas encore éclaté, selon l'étude de Yale. Le rapide retrait de certaines entreprises et le retrait tardif d'autres ne sont pas liés à une question de morale et d'éthique. Selon une étude publiée mi-janvier par l'Université de Saint-Gall et l'IMD Business School de Lausanne, 90% des entreprises possédant encore des participations en Russie ne se sont pas retirées du marché. Il existe plusieurs raisons à cela et peu sont liées à une question de morale et d'éthique. Il y a évidemment la question de la difficile procédure que nous avons mentionnée précédemment. Mais les auteurs suggèrent également la possibilité qu'un grand nombre d'entre elles ne souhaitent pas abandonner leur clientèle ou leur personnel russe. En outre, beaucoup d'entreprises ne sont pas soumises aux sanctions qui s'adaptent à chaque secteur. Par exemple, les entreprises pharmaceutiques telles que Roche et Novartis n'ont pas l'intention de quitter la Russie, puisque les médicaments sont exemptés de sanctions pour des raisons humanitaires. Néanmoins, les entreprises qui trouvaient des arguments suffisants pour justifier leur activité en Russie au début de l'opération militaire russe en Ukraine sont confrontées à une situation de plus en plus incertaine. Pour Alexandra Prokopenko, elles craignent de plus en plus d'être considérées comme des complices de la guerre de Poutine. La Russie est désormais perçue comme un partenaire économique peu fiable, poussant les acteurs occidentaux à envisager une porte de sortie. Les entreprises ont perdu beaucoup d'argent en quittant la Russie, mais d'autres entreprises qui sont restées ont risqué des pertes plus importantes, a déclaré Nabi Abdoulayev, associé du cabinet de conseil en stratégie Control Risks, cité par le Financial Times. Selon lui, la meilleure stratégie a donc été de couper les liens avec la Russie directement au début de la guerre, car plus tôt vous partez, moins vous perdez. Les entreprises, encore là, feraient mieux de simplement radier l'entreprise. Je ne pense pas que quiconque soit en sécurité, a déclaré Anna Vlasiuk, chercheuse à KSE, au Financial Times.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.